Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le curry madras puise ses sources dans la cuisine tamoule, sur la côte sud-est de l'Inde. Et on va y trouver des saveurs très fortes, avec des pointes, par exemple, de moutarde, qui est vraiment typique de ce curry-là, et beaucoup de piment.
La cuisine, c'est ce qui rassemble la famille. Maman prépare des plats traditionnels, comme par exemple des idlis, petits pains à base de farine de riz et de céréales, qui nous amène des souvenirs nostalgiques de notre pays.
Il y a des parfums dedans.
Non, les tamous, ils sont cool.
Oui, c'est vrai.
Les tamous, ils sont cool.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Les tamouls sont cool, paraît-il. Ils sont originaires du Tamil Nadu au sud de l'Inde. Ils constituent également une communauté importante au Sri Lanka et leur diaspora est solidement implantée dans le monde entier, notamment en France. Ce sont donc les tamouls, un peuple de plus de 80 millions de personnes, un peuple dont l'histoire remonte d'ailleurs à 2 millénaires. C'est dire si ce peuple a eu le temps de se forger une langue, une culture, une musique et évidemment une cuisine. On plonge aujourd'hui dans les marmites tamoules pour découvrir des saveurs singulières, aussi riches que méconnues, qu'on aurait tort d'ailleurs, on va le voir, de confondre avec les saveurs indiennes. La cuisine tamoule a ses propres recettes, ses expressions épicées, ses techniques, c'est ce que l'on va voir avec nos invités. Selva, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous êtes française, de parents indiens tamouls, et vous nous faites découvrir votre patrimoine culinaire, celui que votre maman vous a transmis, mais votre papa aussi, dans un livre que vous avez écrit et illustré vous-même d'ailleurs, de très beaux dessins. Vous le signez sous votre pseudo, Jody Danas, qui est aussi le nom de votre blog, c'est bien ça, hein ?
Exactement.
Et votre livre s'appelle « À la table d'une famille tamoule, recette de mes parents » aux éditions alternatives. On a eu un vrai coup de cœur pour ce livre, plein de sentiments et de souvenirs. Et vous avez cuisiné pour nous des choses qui sont à la fois typiques du répertoire tamoule et qui sont, ça c'était l'enjeu, réalisables à la maison.
Exactement.
Un petit exemple, juste un avant-goût comme ça.
Par exemple, le rassan.
Le rassan, on ne dit pas ce que c'est extraordinaire. Il fait déjà de l'effet dans son petit gobelet, il est liquide, ça dépote, hein. Non, je sais pas, vous avez essayé? C'est vraiment très intéressant.
Délicieux.
Et puis nous sommes également en compagnie de Renaud Ramamurti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes originaire de Pondichéry, Renaud. Cet ancien comptoir colonial enclavé dans le Tamil Nadu, vous considérez, vous nous l'expliquerez, comme un Français d'origine tamoule créole. Et vous êtes aujourd'hui le chef exécutif de la Maison Petrosian à Paris. Brillante carrière gastronomique. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Renaud?
Alors aujourd'hui, je vous ai préparé pas un rassan, parce que justement je pensais à ton rassan, parce que je viens de le goûter, un sambar qui est un peu un dérivé du rassan, une sorte de soupe, on en parle un peu plus tard.
Voilà, on en parle un peu plus tard et vous allez voir que là aussi on est sur une préparation pleine de tempérament. Votre amour de la cuisine, Renaud, vous le tenez en grande partie de votre mère, qui est une excellente cuisinière. C'est ce que notre chroniqueuse, reportrice Zazie Tavitian est allée vérifier à la source. Bonjour Zazie.
Bonjour, oui, moi je suis allée prendre une démonstration carrément de cuisine indienne créole avec Gilda.
Et vous êtes même essayé aux recettes de la maman de Renaud.
J'ai essayé.
Avec plus ou moins de bonheur.
Incroyable. Vous allez me dire.
Très bien. Et pour accompagner cette cuisine tamoule dans le verre, il faut évidemment des vins qui ont là aussi de la force et un peu de caractère. Et ça a été le défi qu'on a lancé à notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnès. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. Alors oui, c'est à la fois un retour aux sources, les vins dont on va parler, et ça se tentait sur la cuisine tamoule. Je pense qu'on n'est pas loin de réussir.
Très bien. Et on parle bien d'un vin français.
Nous parlons d'un vin français, monsieur.
Mais on n'en saura pas plus.
Non.
Pour interagir avec nous en direct, pour nous livrer un témoignage ou même nous confier une petite adresse tamoule en France, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de l'émission, nos recettes, nos podcasts, nos bonnes adresses, nos bons plans, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Lorsque sa tante Nungay avait épluché 9 des petites feuilles de caloupilé que Maravan était allé cueillir sur l'arbrisseau devant la cuisine, qu'elle les jetait dans l'huile de coco brûlante, alors la cuisine étroite s'emplissait d'un parfum qu'il voulait garder sur lui autant que possible. Tout comme le parfum de la cannelle, utilise toujours un peu plus de cannelle que nécessaire, avait coutume de dire Nengay. Ça sent bon, ça a bon goût, ça désinfecte, ça stimule la digestion. On en retrouve partout, pour trois fois rien.
C'était Renaud, à la lecture de cet extrait du roman Le Cuisinier de Martin Suter. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'est un formidable polar. C'est pas vraiment polaire, c'est même plutôt tropical. Un polar culinaire qui fut salué par la critique à sa parution en 2010 et que nous a conseillé notre spécialiste de la littérature gourmande dans l'émission, Stéphane Solier. Alors le pitch de ce roman que j'ai personnellement lu et apprécié, c'est l'histoire d'un réfugié tamoul, Maravan, qui fait la plonge dans un restaurant en Suisse. Et comme il fut initié au Sri Lanka, à la cuisine ayurvédique, par sa grand-tante Nangay, eh bien il décide de lancer en Suisse un service de restauration à domicile spécialisé dans les mets aphrodisiaques pour les couples défaillants. Et notre héros va se retrouver mêlé contre son gré à la mafia sri-lankaise spécialisée dans le trafic d'armes, Le Cuisinier de Martin Suter, un très bon roman qui est sorti d'ailleurs au format poche et dont on vous recommande la lecture. Vous aviez entendu parler, Renaud et Selva, de ce roman Le Cuisinier de Martin Suter ?
Non, du tout.
Alors pourtant, on apprend, dans l'extrait que vous nous avez lu, Renaud, quelques petits indices sur l'identité de la cuisine tamoule. Le fait notamment que la cuisine tamoule utilise, je les ai sous le nez, ce sont des feuilles vertes, des feuilles de kaloupilé. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces feuilles, qui veut commencer ? De quoi s'agit-il, le kaloupilé ? Allez, Selva.
Oui. En fait, c'est une feuille qu'on appelle, alors à tort, hein, feuille de curry.
Oui, les Anglais disent d'ailleurs curry leaves.
Curry leaves, c'est ça. Sauf qu'en fait, ça vient de l'arbre kaloupilé, qui est un arbre qui fait de 4 à 10 mètres, qui a des branches très très fines. Et en fait, on cuisine énormément ces feuilles dans le sud de l'Inde. Et en fait, c'est vraiment un des marqueurs de la cuisine tamoule. Il est présent dans à peu près 99% des plats salés.
Des feuilles ovales, luisantes, c'est d'environ 3-4 cm de longueur. Quel goût ça donne dans la cuisine tamoule, Renaud ?
Alors, ça donne un goût, je dirais, qui est indescriptible. En fait.
Quand on les frotte sous le nez, franchement, c'est impressionnant.
En fait, c'est vraiment le marqueur type de la cuisine indienne. C'est un peu cette base-là qu'on utilise dans tous nos plats. En fait, on va venir faire torréfier ces feuilles dans de l'huile. Bien souvent, ça s'accorde très bien avec des graines de moutarde noire.
C'est étonnant, c'est chaud. Il y a évidemment des notes épicées. Hein. Ouais. Ça vous impressionne, j'ai l'impression, Jérôme, vous avez un coup de cœur.
C'est extraordinaire parce que, en fait, ça sent la cuisine tamoule. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que même là, vous en avez mis dans le rassam.
Dans le rassam, j'en ai mis,
rassam. C'est assez intense.
En fait, c'est presque boisé aussi.
Il y a, des notes boisées, grillées. Mmh.
Grillées, tout à fait, même fumées.
Et ça évoque vraiment, effectivement, c'est un peu au fond, un peu la mutation que les feuilles de laurier dans notre cuisine traditionnelle, où on met toujours une feuille de laurier dans un ragoût, dans un truc qui mijote, ben j'imagine que c'est à peu près le même principe.
Et on est aussi, alors pour le coup, la feuille de kaloupilé est très très répandue à La Réunion, hein, et on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent depuis La Réunion. Ça pousse même là-bas en arbrisseau comme du chien d'an. Et il y a d'ailleurs une communauté tamoule qui est importante à La Réunion.
Oui, tout à fait.
Comme aux Antilles françaises, du reste.
À La Réunion, à l'île Maurice et aux Antilles françaises. Et ça, du coup, c'est très lié à un épisode de migration qui est la migration des coolies. Donc, en fait, c'était des travailleurs, après l'abolition de l'esclavage, des travailleurs de l'Inde et de Chine qui ont été... à qui on a proposé des contrats alors très précaires pour aller travailler dans des plantations. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des communautés tamoules aujourd'hui dans ces pays-là.
Est-ce que ce ne serait pas non plus des tamoules du Sri Lanka qui auraient... apporter dans leur valise le Colombo. C'est une hypothèse tout à fait crédible aux Antilles françaises, en Martinique et en Guadeloupe.
Exactement, alors plutôt des tamouls indiens.
Les coolies qui ont été émigrés.
Et en fait, on retrouve en fait une communauté, moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps non plus, qu'il y avait une communauté tamoule et des descendants de tamoules en Guadeloupe et en Martinique, avec des temples, etc. Donc il y a encore cette tradition-là. Et oui, le Colombo, ça vient de... Enfin, ils ont apporté ça dans leur bagage.
Très intéressant. Dans le petit texte que l'on lisait, extrait du Cuisinier, le roman de Martin Suter, on perçoit aussi la vocation médicinale de la cuisine tamoule, influencée par la médecine ayurvédique. Vous nous le confirmez, Selva ?
Oui, complètement. En fait, il y a une place cruciale des épices et du végétal, en fait, dans la cuisine tamoule. Donc, on va le voir, mais il y a 10 milliards de légumineuses, les épices qui sont torréfiées, moulues, qui sont aussi infusées, souvent. Et c'est notamment, et alors ça, c'est peut-être plus un marqueur de la cuisine tamoule hindoue, Parce qu'en fait, il y a plusieurs confessions dans la culture tamoule, enfin dans la communauté tamoule. Donc, confession chrétienne, il y a des musulmans aussi, il y a des tamouls, il y a des personnes qui sont de confession bouddhiste aussi. Donc voilà, autant de cuisine, mais en tout cas, la cuisine hindoue, elle est très marquée par le végétarisme, enfin la cuisine végétarienne et le végétalisme aussi, et la cuisine végane. Et donc, il y a des influences de l'Ayurveda, bien sûr.
Et vous-même, dans votre famille, on peut dire que vous êtes de confession hindoue. Oui. Hein, ce n'est pas un secret, puisque vous en
Exactement.
Parlez, évidemment, dans l'histoire familiale que vous développez dans votre livre. Là, on est majoritairement... Enfin, vous m'avez dit, en préparant cette émission, que votre famille était finalement flexitarienne, c'est-à-dire
oui.
majoritairement végétarienne, voire végétalienne, par tradition hindoue.
Exact.
Mais il vous arrivait de manger de la vache. Et d'autres viandes.
Et d'autres viandes.
Pourquoi ?
Et en fait, je pense que c'est l'adaptation. Quand, quand mon père et quand mes parents sont arrivés en France, moi, je me rappelle que ma mère me disait que mon père avait découvert la viande de bœuf en arrivant en France et qu'en fait, il en était tombé amoureux. Alors évidemment, on n'en mange pas en Inde. Et voilà, c'est encore très tabou. Il y a,
la vache sacrée.
La vache sacrée. Et qu'en fait, il était tombé amoureux de cette viande-là. Et du coup, bah, qu'il avait continué à en manger. Et c'était effectivement un vrai viandard. Et après, moi, j'ai grandi aussi dans une communauté où il y avait des Indiens tamouls chrétiens, des tamouls Sri Lankais aussi. Et du coup, en fait, on mangeait vraiment toutes les viandes. Donc voilà.
C'est ça. De votre côté, Renaud, on est de tradition chrétienne.
Tout à fait.
Racontez-nous en un mot l'histoire de votre famille. Tout cela part de Pondichéry. Et vous avez même des ancêtres. Indien tamoul, Indien créole, qui sont d'origine française.
Tout à fait, exactement. En fait, ouais, je suis pondichérien, donc d'origine, ouais, de Pondichéry, exactement. Mm-hmm. Et mes grands-parents sont créoles. Donc en fait, c'est assez simple. En 1962, Pondichéry devient entièrement indienne. Et bien avant. Après avoir été un comptoir français. Donc les cinq comptoirs français, je peux les citer, c'était Pondichéry, Mahé, Karaikal, Chandranagore et Yanahuan.
Mm-hmm.
Donc voilà, donc j'ai aussi un attachement à cette, cette source de cuisine créole, en fait, parce qu'on a aussi des influences dues au Portugal. Donc les Portugais sont venus au 15e siècle apporter le piment en Inde, parce que en fait le piment n'existait pas en Inde, c'était le poivre qui était un peu l'épice dominante.
Mm-hmm.
Donc on sent toutes ces influences là dans la cuisine créole.
C'est ça. Alors originaire de Pondichéry.
Pondichéry.
Et vos parents sont donc, enfin vous êtes issus d'une famille, on l'a dit, indienne créole avec des influences. On va le voir, on n'en dit pas trop, hein,
ouais.
Parce qu'on va faire la connaissance de votre maman d'origine d'ailleurs avec des origines portugaises, vous le disiez. Et vous confirmez que dans la cuisine tamoule, il y a des expressions culinaires différentes selon évidemment les origines géographiques, mais également selon les confessions.
Également selon les confessions, et je dirais même plus selon les familles, en fait.
C'est, ah.
La cuisine en Inde, c'est, je dirais que c'est une religion, en fait. Donc chaque famille a sa petite épice, ingrédient qui mm-hmm. a changé en fait, le goût des plats. Quoi.
Très bien, on va cuisiner dans un instant. On va vraiment savourer. D'ailleurs, le studio 521 de la Maison de la Radio est empli d'effluves épicées au fourneau dont on va déguster pour mitonner. Condimenter cette émission en direct, Laurent Thomas, Mathias Saléon, Nadia Chougui et Marion Philippe. On foule le répertoire tamoul et on apprend à cuisiner des recettes épicées avec nos invités. Juste après, allez, une petite mise en condition musicale proposée par Djoubaka. M.I.A. Ringa Ringa, ça vous dit quelque chose ou pas?
Ah, c'est mire.
Vous reconnaîtrez sans doute la BO de Slumdog Millionnaire.
Ah, oui, okay.
Bon voyage sur France Inter.
Chua, 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 chua.
On va déguster sur France Inter. On se met aujourd'hui à la table des tamouls. Et on commence avec vous, Selva. Vous écrivez dans votre livre « À la table de la cuisine tamoul, recette de mes parents aux éditions alternatives ». Les plats cuisinés à la maison m'ont toujours intrigué. C'est bien simple. Je ne les ai jamais retrouvés au restaurant ou vus présentés dans les médias, alors qu'ils étaient une part indéniable de ma culture et de mon identité. Il y a quand même une espèce de paradoxe.
Oui.
On l'a dit, le peuple tamoul, c'est 80 millions de personnes dans le monde, entre le sud de l'Inde, le Sri Lanka, où ils sont évidemment très présents. On sait malheureusement qu'il y a eu cette guerre civile qui a fait la une des journaux pendant plusieurs décennies jusqu'en 2009 et qui a provoqué d'ailleurs une émigration et un accueil en France, hein, au statut de réfugiés politiques. Ils sont également présents en Malaisie, les Tamouls, et puis dans plusieurs diasporas dans le monde entier. Donc c'est une cuisine a priori qui a voyagé. Et pourtant, on la connaît mal. Je suis sûr que tous les auditeurs qui nous écoutent ont une idée assez imprécise de cette cuisine.
Ouais,
comment vous l'expliquez,
Selva? Alors, j'ai pas forcément beaucoup d'éléments de réponse. Moi, j'essaie de trouver en fait des éléments de réponse depuis plusieurs années, notamment avec mes différents projets. Je pense que c'est un énorme point de frustration pour en fait tous les enfants tamouls, enfin toute notre génération, parce qu'en fait on ne voit pas effectivement ce qu'on mange à la maison au restaurant, alors qu'il y a eu un passé colonial en France, en Inde, et aussi toute cette histoire autour de la guerre au Sri Lanka. Et en fait on la retrouve pas. Alors après, moi j'ai deux sources d'explications. C'est déjà d'un point de vue légitimité. Est-ce qu'on se sent représenté dans les médias, etc. Est-ce qu'on se sent légitime pour en parler? Oui, ça m'a pris des années, en fait, pour ce projet de bouquin. Avec mes food tours, je me suis rendu compte qu'il y avait un engouement.
On va parler de votre food tour pour faire découvrir justement votre culture en France.
Ouais, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt, en fait, autour de cette cuisine. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et surtout, ce projet de livre, bon, bah voilà, ça fait des années, mais parce que je me sentais pas représentée dans les médias, parce qu'en fait, je voyais aussi que, on mettait vraiment le focus sur la cuisine du nord de l'Inde, Bollywood, il y a tous ces marqueurs-là. Est-ce qu'on a envie vraiment de s'engager sur ce terrain? Ça, c'est une première question. Et un premier élément de réponse. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moins il y a de représentants, moins on a envie d'en parler, moins on se sent légitime. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que, d'un point de vue marketing, en fait, au restaurant, bah, ce qui fonctionne, c'est les cheese nan. Donc, on va aller vers.
Ça y est.
On va aller et là-dessus. Oui. Et en fait, il ne faut pas oublier que les personnes qui montent des restaurants, notamment à Gare du Nord, c'est des personnes issues de la première vague d'immigration, qui avaient envie tout simplement d'être rentable pour vivre. Et donc, on va vers ce qui fonctionne le mieux et voilà, on reste dans sa zone
et
de confort.
Et c'est un peu pareil dans toutes les communautés. Hein. Là, on voit dans la communauté chinoise, on commence à voir des adresses d'influence provinciale. Mm-hmm. C'est-à-dire que désormais, il y a des restaurants du Sichuan, du Yunnan, du Shandong, alors qu'avant, c'était restaurant chinois avec une espèce de mixité, de mélange de recettes qui venaient de tout le pays. Renaud, vous confirmez aussi que la cuisine tamoul est en déficit de représentativité?
Tout à fait, tout à fait. C'est un peu aussi aujourd'hui notre devoir aussi avec Selma de représenter cette cuisine en fait qui est une cuisine familiale, une cuisine du cœur et il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, elle est pas assez mise en valeur aussi. Je pense aussi qu'on fait partie d'une communauté aussi qui est vachement fermée sur elle-même. Donc c'est à nous nouvelle génération de parler un peu de toute cette cuisine qui est incroyable, qui est forte en couleur, en odeur. En tout, quoi.
Vous êtes chef, vous avez un pédigré culinaire incroyable, vous êtes à la tête de la maison Petrossian, boulevard
J'aurais
de la Tour Maubourg.
Pas la prétention de dire ça, mais...
maison plus que centenaire. C'est une maison, Petrossian en l'occurrence, portée sur le caviar, on le sait, hein, puisque c'est une aventure d'origine arménienne. Donc caviar, et puis ensuite saveur nordique, saumon fumé, etc. Est-ce qu'il est possible d'instiller quelques influences tamoules dans votre répertoire là-bas?
Bien sûr. Avec Michael Petrossian, on est assez libre sur ce sujet. En fait, j'ai pu faire plusieurs résidences autour de la cuisine tamoule dans les salons privés chez Petrossian. Et de temps en temps, dans les plats, j'essaie d'apporter des petits condiments par-ci, par-là. En fait, la cuisine tamoule, pour en parler, c'est une cuisine qui m'est très chère. Et j'ai mis du temps en fait à assimiler cette cuisine. Parce que pour moi, la cuisine indienne, de manière générale, c'est une cuisine qui est d'une simplicité. On sait très bien que la simplicité s'accorde avec la complexité. Donc je me sentais pas légitime de pouvoir cuisiner la cuisine indienne. Ça fait 5 ans exactement que je me penche sur le sujet. Je pense qu'au bout de 15 ans, on commence à avoir un peu plus de technique et de sensibilité.
Alors on a commencé à approcher cette cuisine tamoule. On a dit qu'elle était souvent végétarienne, même s'il y avait bien entendu des exceptions. On peut dire aussi raisonnablement que le riz est la céréale de base. et une importance énorme, évidemment, à d'autres saveurs végétales, les légumineuses, hein, présence de lentilles, de pois chiches, vous le confirmez également. Beaucoup d'épices, on va voir lesquelles. Est-ce que c'est une cuisine pimentée par ailleurs? Ça, c'est important. Est-ce qu'elle est... Parce que, évidemment, il faut faire la différence entre pimentée et épicée. C'est pas
exactement
la même chose.
Alors, c'est je pense que
aussi.
C'est peut-être la cuisine la plus pimentée de l'Inde, de manière générale. Ensuite, voilà, c'est aussi une cuisine qui est épicée. Et il y a aussi des régions dans le Tamil Nadu qui sont connues pour être encore plus épicées, encore plus pimentées. Mais après, il ne faut pas oublier que le Tamil Nadu, donc, c'est dans le sud de l'Inde. Et qu'en fait, il y a des régions aussi qui sont agricoles. Aujourd'hui, c'est un peu vu, enfin, en tout cas, cette région, c'est quand même le grenier, en fait, de l'Inde entière pour les céréales, pour les épices. La région qui est collée au Kerala aussi est une région où on produit énormément d'épices, de la cardamome notamment, donc, et du pois, enfin, vraiment beaucoup de choses. Et voilà, il ne faut pas oublier non plus l'aspect géographique de cette région.
Quand on parcourt votre livre et toutes ces recettes, il y a deux condiments épices qu'on trouve et qui sont un peu des traits identitaires de la cuisine tamoule. C'est un, la graine de moutarde. On la trouve beaucoup, beaucoup, vous confirmez?
Je confirme, la graine de moutarde, on la trouve partout. De toute façon, vous allez voir, on va déguster tous ces plats qu'on a fait avec Selma. Il y a de la graine de moutarde partout. C'est le marqueur qui est présent, en plus des feuilles de curry leaves qu'on a pu présenter précédemment.
Il y a également un autre condiment, je le tiens à la main, c'est un drôle de haricot marron, une gousse un peu grosse contenant des graines, peut-être aussi une pulpe. Alors
tamarin.
Ouais. Alors tamarin, on peut le connaître dans la cuisine d'Asie du Sud-Est, hein, notamment dans la cuisine thaïlandaise. Hein, le tamarin, très important, ça apporte de l'acidité. Racontez-nous le tamarin, ce que c'est. C'est très présent dans la cuisine tamoule.
Oui, en fait, le tamarin, c'est un fruit issu du tamarinier. Et en fait, quand on le déguste, en fait, on enlève évidemment sa coque, la gousse, et en fait, on récupère la pulpe. Et la pulpe, en fait, elle est assez fibreuse parce qu'il y a les graines à l'intérieur. Donc, en fait, ce qu'on va faire, en fait, on trouve au magasin le tamarin sous différentes formes. Il y a la pulpe qui est vendue en bloc. Et en fait, ensuite, on va la faire diluer et fondre dans de l'eau chaude. Et on va récupérer ensuite, avec un tamis, le jus. Et en fait, c'est ça qu'on va ajouter aux sauces et qui rajoute, en fait, vraiment de l'acidité. Et en fait, moi, c'est pour ça que, enfin, quand j'étais au Mexique, j'étais assez surprise, en fait, de voir les mêmes marqueurs. Il y a une utilisation du tamarin qui est assez dingue. Alors après, au Mexique, ils l'utilisent en bonbons, en jus, etc. En Inde, c'est plutôt pour les sauces, vraiment. Ça se marie très bien avec, notamment, les fruits de mer, les poissons, aussi avec beaucoup de légumes. Enfin, c'est vraiment la base pour le coup.
Venons-en à une première recette justement qui comporte du tamarin, mais également des graines de moutarde, je crois.
Non, il n'y a pas de graines de moutarde.
Il
y a des feuilles de caloupilé.
Des feuilles de caloupilé.
Et là, c'est le rassan aux échalotes.
Rassan. Alors, ça s'écrit rasam.
Ouais.
Mais c'est rassan. Il s'agit en fait d'une sauce qui accompagne le riz.
Ouais, exactement. On peut dire que c'est un bouillon. Et généralement, on le consomme à la fin du repas parce qu'en fait, il a des vertus digestives. Et ensuite, il y a des tas de rassans différents. Donc, la base, c'est toujours le tamarin. Mais il y a des rassans à la tomate, à l'ail, au citron, tout simplement, ou juste au tamarin et aux échalotes. Donc, là, c'est la recette de ma grand-mère. Très facile à faire, 5 minutes. Et en fait, il y a des graines de fenugrec aussi dedans. Et voilà, tout ça aide à la digestion. C'est vraiment en fin de repas, soit avec le riz bien mélangé, soit juste en shot.
C'est tonique, c'est piquant, parce que pour le coup, il y a du piment également. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? C'est étonnant.
Je trouvais ça très bon.
Jérôme Gagnès.
C'est à la fois vif, c'est piquant. La finale est bien relevée par le piment. Quel type de piment utilisez-vous?
Alors, moi, j'utilise du piment rouge séché. Donc, en fait, c'est un piment de base qu'on trouve en épicerie. Je ne saurais pas vous dire exactement lequel. Mais en fait, c'est un piment séché qu'on va faire infuser dans de l'huile au tout début, qui va gonfler. Et ensuite, on va rajouter le tamarin, les oignons, etc.
Et là, on sent vraiment la touche de caloupilé en plus. C'est à la fois tonique. Il y a une acidité très vive.
Ouais, c'est hyper parfumé. Et effectivement, il y a cette acidité qui fait un petit boost comme ça. C'est vraiment délicieux. Et c'est assez inédit, en fait, aussi, comme saveur. On n'est pas habitué à
Et c'est tout à fait inédit. C'est une sensation vraiment incroyable. Et d'ailleurs, la recette est présente dans votre livre. Elle est également en ligne sur notre site internet. Elle n'est pas compliquée à faire. Hein. Sincèrement, il faut des petits oignons, des échalotes.
C'est ça, des feuilles de caloupilé qu'on trouve en ligne aussi, des graines de fenugrec, du tamarin, de la coriandre.
Et on mange ça avec un riz basmati.
Ouais.
Ça nous plaît. Bah écoutez, c'est vraiment formidable. Le rassan, avec le bon accent. Alors Zazie, eh bien elle s'est infiltrée dans une famille tamoule, et pas n'importe laquelle.
On va déguster. sur France Inter.
Et oui, pour cette chronique, Zazie, vous êtes allée cuisiner avec la mère de Renaud, tout simplement, hein, Gilda de Rosario.
Et oui, j'avais envie de comprendre d'où vient votre talent, Renaud. Alors, blague à part, si je ne me trompe pas, votre mère Gilda vous a appris beaucoup de choses en cuisine, et notamment ses recettes du sud de l'Inde. Donc j'ai voulu la rencontrer pour en savoir plus, et je lui ai d'abord demandé à Gilda où elle avait grandi.
Je suis née et j'ai grandi à Pondichéry, vraiment au sud de l'Inde. En fait, nous, c'est la cuisine créole indienne, parce que moi, je suis d'un mélange indien et européen. C'est mes arrière-grands-pères, ils sont venus du Portugal, ils sont venus de l'Angleterre par rapport aux épices. Alors mes arrière-grands-pères qui se sont mariés avec des Indiennes, où on dit les Indiens créoles.
Et qui vous a appris à cuisiner?
Alors, la cuisine, c'est ma tante. C'était la grande sœur de mon papa, parce que chez nous, la cuisine, c'est une affaire de femme. Il n'y a pas d'homme dans la cuisine. C'est mal vu. Mais il y avait des chefs cuisiniers, mais ils cuisinaient seulement en tant que chef. À la maison, c'était histoire de femme. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi, en voyant. Alors aujourd'hui, moi, je voulais faire un vindali. C'est avec la viande de porc. C'est une recette pas très épicée, mais vraiment fondant. Il y a en accompagnement le riz citron. C'est le reste du riz qu'on devait conserver. On a trouvé une astuce de conserver en mettant du citron.
On commence par quoi? Est-ce qu'on va commencer par le riz ou on commence par le...
On va commencer par la viande qui D'accord. est un peu plus long. Pour la viande, il faut juste des oignons, des tomates et de l'ail. Nous, les Indiens, on apprécie beaucoup l'ail. On ne peut pas faire la cuisine indienne tous les jours parce que ça fait du bruit. En pilant, les voisins ne vont pas être contents. Alors là, les oignons ont un petit peu sué. On va rajouter les tomates.
Est-ce que cette façon de cuisiner aussi des saveurs avec lesquelles vous aviez grandi, du sud de l'Inde, c'était aussi une façon de vous rappeler du pays?
Ah oui, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ce goût, ce... Parce que la cuisine, c'était pas une corvée pour nous. C'était un bon moment où on rigolait, on parlait les potins, où on parlait du voisin, de la voisine. La cuisine, c'était vraiment... C'était ça.
Là, on laisse bien compoter les oignons et
voilà,
les tomates.
C'est ça, exactement. Et on rajoute de l'ail, la purée d'ail.
Vous avez appris à tous vos enfants à cuisiner?
Exactement. Après, il y a une génération où on dit stop. On ne néglige pas les garçons. C'est pour ça que Renaud, il est ce qu'il est maintenant. Moi, je ne voyais pas de différence. En fait, quand j'initiais mes garçons à la cuisine, c'était comme un jeu. Voilà. Comme pour moi, on devait toujours sortir avec les parents. On n'avait pas le droit de sortir tout seul. Alors, ma maman, elle n'avait pas ce temps de sortie. Alors, c'était un échappatoire. La cuisine était un échappatoire un petit peu pour nous. Alors, arrivée ici, je me suis retrouvée seule, sans voisin, sans connaissance. Même si les enfants avaient des jouets et quelques sortes de distractions, pour moi, c'était la cuisine où je devais les initier un petit peu. Voilà, alors là, les oignons... Les tomates et l'ail a bien pris un petit peu truc. Et là, on va ajouter un peu d'épices.
Donc le curcuma. Et là, je vois aussi qu'il y a du cumin.
Et un peu de poudre de piment. Alors, le curcuma, comme chez nous, la cuisine est vraiment colorée. Alors moi, je sais pas par gramme. Hein, c'est par couleur que... Voilà, dès que je vois qu'il y a une belle couleur, pour moi, c'est ça. Et on ajoute la viande. Soit on peut prendre la viande de porc à bouillir, ou soit une longe qui n'a pas d'eau, juste elle est un petit peu émincée, pas trop gros, pas trop mince. Je laisse un petit peu saisir. Après, on rajoute un petit peu de vinaigre pour casser un petit peu le fort. Parce que si je ne mets pas de vinaigre, là, vous allez avoir la bouche en feu.
Là, vous couvrez d'eau et vous laissez encore mijoter.
Voilà. Oui, un petit peu, jusqu'à ce que la viande soit un peu bien cuite. À la fin de la cuisson, on peut mettre une bonne cuillère de lait de coco.
Donc ma mission, c'est que je vais devoir, moi, refaire vos plats.
D'accord.
Ils seront jamais aussi bons que les vôtres, mais bon, votre fils me dira en plateau si c'est, ça va.
Je vous souhaite de faire le meilleur. Vous avez vu comment j'ai préparé. Vous allez arriver quand même.
Et voilà, et Zazie a suivi tous les conseils de votre maman et vos recettes maternelles sont dans votre assiette réalisée par Zazie.
Et je confirme, maman, tout est nickel.
Non, c'est vrai?
Franchement, ouais, c'est incroyable, c'est le riz est parfaitement cuit, très bon assaisonnement. On retrouve vraiment les marqueurs du riz citron dans l'acidité, etc. C'est chouette. Bravo.
Porc, vindali. Non, mais franchement, bravo, parce que moi, je confirme. Alors, j'ai certainement pas l'expertise de Renaud en matière de cuisine tamoule, mais c'est super bon. On se régale. Porc vindali ou porc vindalou? On a trouvé les deux appellations en préparant cette émission.
Alors, je dirais plutôt porc vindali, parce que du coup, maman, elle a toujours dit porc vindali. Après, porc vindalou, ça marche aussi. Très bien. Donc, pour la petite histoire du porc vindali, vindalou. En fait, c'est un moyen de conservation, le vinaigre. Donc voilà, à l'époque, on n'avait pas forcément de frigo à la maison, etc. Donc du coup, ces viandes étaient conservées dans cette mélange de sauce vinaigrée. Mm-hmm. Et voilà, ça pouvait très bien se transporter. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que maman a choisi de faire aussi un riz citron. C'est un riz qu'on fait régulièrement quand on va pique-niquer ou quand on se balade pour une petite randonnée ou quoi que ce soit. Bah, en fait, on fait ce petit riz citron qui tient bien le transport.
C'est ça. Et on peut faire cette recette au porc, mais également on la trouve au poulet, hein, Salva.
Ouais, au poulet. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on en parlait avec Renaud et on parlait de cuisine, enfin de recettes typiquement de certaines familles. En fait, dans ma communauté, quand j'ai grandi, on faisait du vindali au knaki, des knaki vindali.
Et oui, knaki vindali. Et mais d'ailleurs, voilà, c'est dans votre livre.
C'est dans mon livre.
Knaki vindali, formidable.
J'ai essayé de comprendre si voilà, c'était juste chez nous ou si Renaud en faisait aussi. Donc Renaud en fait pas.
Oui.
Et donc c'est juste chez moi. Ça c'est typiquement de l'influence portugaise aussi, parce qu'il y a de l'ail et du vinaigre. Enfin, c'est vindali, c'est la contraction des deux.
C'est ça.
Et c'est exactement.
Avec de la tomate, ouais, des épices. Bravo, oui, Zazie, franchement. Et en plus, vous avez retranscrit les recettes de la maman de Renaud,
oui,
qu'on va retrouver sur notre site internet.
J'ai retranscrit et le porc vindali et le riz citron. J'ai essayé de comprendre les quantités qu'elle mettait, mais Gilda, elle donne pas tous ses secrets non plus. Donc,
j'ai le même problème avec maman, c'est qu'en fait, rien n'est pesé. Donc, je suis constamment avec une petite balance derrière. Et des fois, je tourne le dos et rajoute des épices et j'arrive jamais à faire la même
quand
chose.
Vous écrirez à votre tour votre livre de recettes, Renaud, il faudra bien que votre maman se mette au grammage et au proportionnage des recettes. Bravo pour ce riz citron, ça c'est tout à fait étonnant. Il a une belle couleur étincelante, bien jaune doré, ça c'est vraiment la marque du curcuma. Il y a l'acidité, comme le disait Jérôme, du citron, tout à fait étonnante. Et puis il y a ces petites graines de moutarde qui viennent apporter ces petits shots piquants là sous le palais, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est pareil, quand j'ai goûté ça avec Gilda, c'est une saveur que j'avais jamais goûtée, parce que je trouve que cette acidité-là, j'ai l'impression qu'on retrouve dans la cuisine tamoule, on la retrouve très peu dans nos cuisines à nous, et ça vraiment c'est génial, je trouve, ça
apporte
quelque chose.
Étonnant, vraiment, bravo Zazie pour cette réalisation. Alors, la cuisine, non pas de la maman de Renaud, mais la cuisine de Renaud, car elle existe, elle est présente sur le plateau dont on va déguster, il y a une très belle assiette pleine de couleurs et de parfums, sambar,
exactement, sambar.
Racontez-nous, sambar, là aussi c'est vraiment un nom typique de la cuisine tamoule.
Exactement, ça c'est l'un de mes plats préférés, voilà, c'est ça part un peu dans la continuité du rassan, en fait, c'est une sorte de, je pourrais pas trop vous qualifier, est-ce que c'est une soupe ou pas, en fait, c'est plutôt...
Ou une purée.
C'est une sorte de purée, en fait, c'est une base de lentilles, on mixe deux sortes de lentilles, donc du coup des lentilles de corail et des lentilles et des pois chiches.
D'accord, donc deux légumineuses.
Deux légumineuses, donc longuement cuit. Ensuite, c'est revenu avec des tomates, des graines de moutarde et des épices. Donc, on peut le faire de manière simple avec simplement un mouillement à l'eau. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre un peu un légume qui me tient à cœur, c'est le moringa.
Ah.
Donc le moringa, c'est assez spécifique comme
que,
légume.
Que je prenais quand même pour un céleri branche. Hein. Je me disais, c'est quoi du céleri branche? Non, moringa, tu déconnes
ou quoi? Ça ressemble beaucoup. Hein.
Ah, ça ressemble beaucoup en plus?
Oui, non, mais je veux dire, esthétiquement, visuellement, l'extérieur,
oui, c'est vrai.
Ça ressemble énormément.
Oui. Mais alors, moringa...
Alors, moringa, ouais. Le moringa, c'est une plante un peu atypique. Mm-hmm. Et une fois de plus, c'est un légume que j'ai appris à redécouvrir en tant que cuisinier, en fait. Mm-hmm. Typiquement, je travaille un peu comme un haricot vert, etc. Bon, il est un peu spécifique à manger comme légume parce qu'il est assez fibreux, donc du coup, en fait, comme dans la cuisine indienne, en fait, ce qui est le plus marrant, c'est de manger avec les mains. Donc on va venir prendre le moringa du bout des doigts,
oui,
et on va venir, avec ses dents, enlever la pulpe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une amertume. Une amertume qui ressemble vachement.
Qui est-ce qui a prononcé artichaut?
C'est moi, je dis comme un artichaut en fait.
Ah oui, comme un artichaut, d'accord. Et en fait, donc il y a une partie ligneuse, un peu fibreuse. Et c'est à l'intérieur du moringa qu'on attrape cette pulpe moelleuse, onctueuse.
Tout à fait. C'est ça.
Il est en train de, on a une assiette à se partager à deux, et là, Jérôme Gagnès s'est jeté dessus, je peux même pas y toucher. Et, au moins, vous aimez ou pas, Jérôme? Vous avez le droit de vous mettre devant le micro, hein,
ah ouais.
Si vous voulez.
Ah bon. Ah, super.
Oui.
Plein de parts. Vous avez rien d'autre à dire que c'est très bon.
Il y a ce petit mélange avec la coco, le coco se râpé aussi.
Ouais, alors ça, ça c'est un chou, ça, on appelle ça des chutneys. Donc, chutney.
Ouais.
Qu'on sert, de manière, je dirais,
quotidienne
avec les plats. Donc c'est souvent les plats indiens ou les plats tamouls sont souvent servis avec un petit condiment, donc un chutney. Aujourd'hui je vous ai fait un chutney de chou. Ça peut très bien marcher avec un chou rave. On est en pleine saison, je sais que vous adorez le chou rave notamment. Juste assaisonné avec une petite huile d'olive,
juste mandoliné.
Donc ça marche très bien aussi avec du chou rave ou d'autres légumes verts.
Qu'est-ce que c'est bon, ça. Il y a le côté croquant, il y a la note exotique évidemment de la coco râpée.
Tout à fait.
Et tout d'un coup, ça chauffe sous le palais, c'est normal ou pas?
Ça chauffe sous le palais, c'est le piment d'ailleurs. C'est le piment qui est...
Faut être habitué. Hein. Moi, j'ai pas une résistance phénoménale au piment. Là, je suis aussi rouge que la bonnette de mon micro France Inter. Jérôme, vous avez une question sur le plat?
Oui, il y a un petit élément dans le plat.
Petit élément, alors c'est une crevette, c'est un ourka. Donc le ourka, c'est un peu le pickles, un peu de la cuisine indienne. Ça, c'est des plats, des conserves qu'on fait un peu en amont et qu'on laisse un peu maturer pendant plusieurs semaines. Donc on peut en faire aux légumes, à la viande. Et une fois de plus, c'est un moyen de conservation. Et ça, je trouve ça absolument génial comme condiment. C'est souvent, enfin, on en parle. C'est ce qui est marrant, c'est que des fois, quand on était gosse à 4h, on n'avait pas envie de salé, mais on prenait du ourka avec une baguette et on se mettait de ça dessus.
Moi, j'ai jamais fait ça. Mais...
Bon, je suis le seul alors.
Et ben voilà, comme quoi, il y en a dans la cuisine tamoule, on n'a pas les mêmes habitudes.
Ouais. Genre, est-ce que cette crevette, elle est très très pimentée, elle est très pimentée là.
Ouais, elle est très pimentée.
Vous êtes très très rouge de couleur.
J'ai contracté une maladie qui est une folie du piment à cause de vous, à cause d'une émission que nous.
C'est vrai.
Que nous commettâmes ensemble ici.
Ouais, vous avez fait votre cooking out autour du piment.
Et j'adore le piment, j'en mets partout. Et ça, je trouve ça très 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 bon, parce qu'il y a un vrai bon piment qui est puissant, qui s'affirme, qui est intense.
Exactement, de toute façon la recette c'est assez simple, c'est du piment, de l'ail, du gingembre et de l'huile.
Voilà. Et il y a un enseignement magnifique dans votre assiette, cher Renaud, c'est qu'on se rend compte qu'il y a du relief, il y a du chaud, du pimenté, du caractériel, des jeux de texture, et on a pour seule protéine animale un œuf.
Un œuf, tout à fait.
Et quelques crevettes, mais qui servent de condiment. Mmh. Comme quoi, on peut vraiment s'éclater avec des légumineuses, des céréales,
exactement,
beaucoup d'épices.
Exactement, on peut s'éclater. Et d'ailleurs, il y a des marqueurs qui sont présents dans la cuisine indienne. On appelle ça les 6 saveurs, le piquant, le salé, le sucré, l'acide, l'astringent et l'amer. C'est un peu l'équivalent de l'umami. Donc voilà, on le retrouve aussi dans le Indian Thali, qui est un peu le plat national du sud de l'Inde, où on va retrouver tous ces marqueurs. Donc c'est assez important d'avoir cette harmonie, cet équilibre dans les assiettes.
Très bien, dans un instant, où se frotter, où se familiariser en France avec les cuisines tamoules, avec la cuisine... Non, remarquez, les cuisines tamoules, on a raison de les mettre au pluriel. Et bien justement, Selva, dans la vie, vous faites aussi des food tours pour initier les Français à cette cuisine exotique, entre guillemets. On va en parler juste après ça.
Cette femme qui danse tout autour de mon corps, sa jambe est humide et saine, elle caresse ma colonne vertébrale dans le noir, je ne la distingue pas. À la force de mon désir, quel est ce langage venu d'ailleurs? Des ondes dansent sur moi, je suis nu et en sueur, je frissonne de plaisir.
Amour, velours, Julien Gasque, choisi par Djoubaka. On soulève aujourd'hui les couvercles de la cuisine tamoule et des cocottes tamoules avec nos invités. Renaud Ramamurthy, le chef de la maison Petrosian. Vous y êtes depuis 3 ans, c'est ça, hein?
Tout à fait.
Belle cuisine avec des petites inspirations tamoules, allez-y, ça se passe boulevard de la Tourmaubourg.
13 boulevard de la Tourmaubourg, voilà, on cuisine les produits. La maison Petrosian, assez simplement, on ne va pas chercher compliqué, à faire compliqué.
Et puis nous sommes également en compagnie de Selva, alias Jody Dallas, sacré nom de scène. Vous tenez un blog et vous êtes l'autrice d'À la table d'une famille tamoule aux éditions alternatives. Des questions d'auditeurs et d'auditrices, Zazie?
Alors, tout le monde a très envie de cuisiner tamoule, j'ai l'impression. Mais alors, il y a des personnes qui cherchent des produits qu'ils n'arrivent pas à trouver. Frédéric, il demande où trouver de la pâte de tamarin. Et Pépite demande où trouver des feuilles de caloupilé. Elle a dit que c'est très difficile à trouver.
Eh ben, on y vient. Alors, Selva, parmi vos activités, il y a les food tours. Mm-hmm. Vous emmenez des touristes, des Français
beaucoup.
De région, ouais. Des Parisiens, à la découverte justement d'adresses tamoule à Paris.
Oui, exactement. Donc, ça fait 4 ans, moi, que j'ai lancé ces food tours en me disant que, bah, avec le simple constat qu'il n'y avait pas de découverte du quartier juste en mangeant et en marchant, concept très simple. Donc ça, j'en fais depuis 4 ans et pendant 1h30, en fait, on mange, on marche, on découvre les adresses et en fait, on mange. Et alors, l'axe, c'est street food, donc en fait, on picore un petit peu et en fait, on rentre aussi dans des épiceries. On va prendre quelques éléments et notamment des snacks parce que justement, en fait, dans les restaurants à Gare du Nord, quand on s'attable, en fait, les Indiens s'attablent très peu. Donc, c'est un quartier qui est de passage. C'est près de la Gare du Nord. Les gens, les tamouls, ils viennent pour faire leurs courses. Et très peu, en fait, ils mangent. Donc, l'offre de restauration, elle est plutôt pour les Français, les touristes. Et donc, en fait, ce qui est vraiment pour les tamouls, c'est plutôt les snacks. Donc, en fait, il faut vraiment s'y connaître et bien, pour bien choisir. Moi, je les guide. Et notamment, il y a beaucoup d'épiceries, en fait, où on peut se fournir aujourd'hui. Et certaines d'entre elles proposent aussi des services en ligne, des services de livraison.
Très bien. Alors, on a la chance d'avoir votre carnet d'adresses sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Vous nous avez fait toute une liste de vos adresses préférées. S'il fallait citer, allez, une table tamoule assez authentique pour y manger les saveurs de cette cuisine du sud de l'Inde. On est à Paris, dans le 10e arrondissement.
Oui. Alors, franchement, là, c'était dur de faire ce choix parce que l'offre n'est pas incroyable. Mais le restaurant que je recommande peut-être le plus, c'est Sangita, qui est rue du Faubourg Saint-Denis, donc pas très loin de la gare de l'Est.
S-A-N-G-2-E-T-H-A.
Ouais.
Sangita.
Sangita, qui est un restaurant 100% végétarien. Mais la cuisine est quand même assez authentique et les saveurs sont. En fait, le chef est indien, tamoul. Donc en fait, on retrouve vraiment les vrais marqueurs et les vraies recettes. Et il y a une vraie volonté de mettre en avant le sud de l'Inde à l'honneur.
Il y a également un comptoir à épices et restaurants, comme quoi, même si la communauté tamoule est quand même concentrée en région parisienne, il y a une adresse assez intéressante à Marseille.
Ouais, exactement. Et donc, c'est Mama Spice by Devaki. Donc, en fait, Devaki, elle est arrivée en France il y a à peu près 20 ans. Mm-hmm. Je crois qu'elle est du sud de l'Inde, mais pas forcément de la région tamoule. Mais en fait, elle cuisine aussi énormément. Elle a un comptoir à épices qui est assez incroyable. Et en fait, elle est aussi, elle a quelques tables. Et elle dresse, elle cuisine aussi.
Très bien. Et d'autres adresses à retrouver, une pâtisserie tamoule, il y a également pas mal d'épiceries. Citons Cash and Carry, 11 rue Caille. Paris 10e. Et là, c'est vraiment une authentique épicerie tamoule pour les condiments, le tamarin, tout ce dont on a parlé, évidemment, le fameux caloupilé. Allez, on revient en France. Mais vous allez voir qu'il y a un jumelage intéressant entre la cuisine tamoule et une certaine appellation française dans le verre. C'est le tour de Jérôme Gagnez.
On va déguster. Sur France Inter.
C'est entre rosé et rouge, rosé foncé ou rouge clair, on hésite.
Oui, on est exactement entre les deux. Ça n'est pas un vin rosé, ça n'est pas un vin rouge, c'est un vin sui generis, c'est un genre en soi. Ça s'appelle le clairet.
Ah.
Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, retour aux sources, parce que le clairet serait... Il faut mettre quand même pas mal de guillemets et beaucoup de conditionnels. Le lointain descendant du premier des vins de Bordeaux, le French Claret, qui avait fait le succès de la région auprès des Anglais, avant qu'un certain Arnaud de Pontac n'imagine faire des vins un peu plus corsés, un peu plus riches, un peu plus puissants, un peu plus foncés, qui était le New French Claret avec Château Aubryon, et qui a lancé aussi, enfin qui a été un des grands succès et qui a été la première grande marque, entre guillemets, le premier grand château à Bordeaux. Revenons au Clairet. Le Clairet, on le produit à Bordeaux et uniquement à Bordeaux. C'est malgré le fait que ce vin ait tendance un peu à disparaître. Et c'est très très dommage, je le dis aux amis bordelais, faites du Clairet. Il est vrai que ça se vend un peu moins facilement parce que la mode est aux bibines à glaçons, bien palotes, produites beaucoup pour beaucoup dans le sud de la France. On y met des glaçons.
Vous ne visez personne, c'est bien.
Non, je vise personne. On imagine qu'en Provence, il n'y a que ça à boire, ce qui est un peu triste, parce que finalement, il y a tant d'autres très bonnes choses à boire. Et donc ici, bah justement, ne parlons pas de rosé, parce que c'est un vin qui est vraiment d'une couleur très soutenue. On est presque vers la grenadine un petit peu dans ce registre-là, avec un nez très intense, avec un vin qui exprime le fruit rouge avec beaucoup d'intensité, des notes de groseille, de framboise. Il y a une certaine sensualité dans ce vin, il y a une très grande gourmandise, il y a un vin qui se libère d'un tas de carcans parce que c'est vraiment une bombe de fruits. Il faut l'accepter tel qu'il est parce que moi j'aime énormément ce vin, évidemment, sinon je vous en parlerai pas. Et surtout, c'est une très belle spécificité du vignoble bordelais. Le vignoble bordelais, il est connu pour ses crus classés, pour tout un tas d'autres trucs. Mais c'est très intéressant d'aller chercher, d'aller fouiner chez les vignerons qui font du clairet. Alors j'en ai trouvé deux. Qui sont deux propriétés très différentes, mais qui incarnent, à mon sens, parfaitement cette dualité bordelaise, et en même temps ce qui fait le tissu et l'énergie à Bordeaux, dans ce vaste ensemble qui est l'Entre-deux-Mers. Ça fait 55 000 hectares, c'est très très vaste. Eh ben, il y a des tas de vignerons qui sont plus ou moins grands, plus ou moins petits, qui sont parfois en bio, parfois pas en bio, mais qui se démènent pour faire vivre cette très belle région, parce que l'Entre-deux-Mers, c'est vraiment magnifique, ce sont des très très beaux paysages, et ils se démènent pour faire vivre cette région avec des Bordeaux supérieurs, des Bordeaux rouges, des Bordeaux supérieurs, des Bordeaux blancs, des Entre-deux-Mers et du Clairet. Alors, vous avez à ma gauche, sur le Ring, le château Landreau, c'est Odile et Bruno Bellet, à Sadirac. Alors, là, c'est une propriété qui fait 90 hectares. Et ben Bruno et Odile, sur 90 hectares, ils sortent un maximum de très bons vins. Un des deux très jolis Entre-deux-Mers avec des belles proportions de sémillons, des vins qui ne lorgnent pas vers des sauvignons un peu, allez, osons le mot, un peu putassiers, un peu vulgaires. Là, au contraire, on est dans la retenue. Ce sont des très jolis vins qui sont aromatiques, mais jamais vulgaires. Et puis il y a ce Clairet qui est une des fiertés de Bordeaux, le château Landreau 2021. Alors c'est intéressant parce que Bruno, eh ben lui, quand il fait le vin, il prend ses raisins. Avant la fermentation, il les fait fermenter à froid, donc il baisse la température. Il fait macérer à froid, pardon. On va extraire un petit peu de couleur, il y a 30 heures de macération. Puis ensuite, il prend le jus, il presse les raisins, il ajoute la presse au jus de goutte. Et il fait fermenter comme un vin blanc. Ça donne ce Clairet frais, assez distingué, très framboise, avec encore un peu de fraîcheur, avec de la fraîcheur et une certaine acidité. Et puis à ma droite, sur le Ring, vous avez Véronique et Franck Terral.
Là, c'est celui qui est dans nos verres. C'est le deuxième
que je vous ai servi. Véronique et Franck Terral. Eh bien, c'est le château Moulin de Péronin à Pujol. Donc là, on est juste au sud de Castillon, beaucoup plus à l'aise dans l'appellation. Là, il y a 14 hectares. Véronique et Franck, ils sont en bio et ils sortent ce très joli Clairet, charnu, ample, avec un peu plus de gras que dans Landreau. Donc ce sont deux styles de Clairet qui se complètent, qui ne s'opposent pas. Et voilà deux très beaux exemples de ce merveilleux vin. Donc intéressez-vous, chers auditeurs, au Clairet. C'est un vin délicieux parce que c'est un vin qui va avec énormément de choses et notamment eh bien, le gras qu'on trouve dans Moulin de Péronin, il venait enrober, il venait apporter comme un petit coussinet sur le piment de la cuisine de Renaud et Selva. Et donc, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. L'apport fruité intense, et puis, gustativement, en bouche, ce gras qu'on trouvait dans Moulin de Péronin, mais aussi dans Landreau, d'ailleurs, ça vient enrober, ça vient apporter un peu de confort dans une bouche qui peut être un petit peu tambourineuse avec avec l'acidité et le piment. Alors, encore une fois, Landreau, c'est 7 €, c'est 6,80 €. Moulin de Péronin, c'est 7,50 €. Quand on est dans ces zones de prix-là, il ne faut pas se priver. Goûtez absolument ces vins parce que ça doit faire aussi, et amis bordelais, ce doit être pour vous une source de fierté de faire ces vins. Oui. Parce que ce sont des très beaux vins et que personne d'autre n'en fait.
Bravo. Grâce à vous, on y voit plus clair.
Dans le clairet.
Sur le clairet, absolument. Un grand merci. Vos références, évidemment, et les prix accessibles de ces bouteilles bordelaises sur franceinter.fr, à la page On va déguster. On termine avec une douceur, une saveur sucrée, oui, parce que il y a aussi de très jolis desserts, des madeleines d'enfance dans la cuisine tamoule. Et vous nous en avez servi la preuve dans un petit gobelet. Elle va la recette dans votre livre aussi.
C'est ça. Donc là, je vous ai servi du paillassin, qui est donc un
paillassin, qui s'écrit Payasam.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est un dessert à base de billes de tapioca. Donc des petites billes de tapioca, mais en fait, c'est parfumé avec de la cardamome, avec de la noix de cajou et des raisins secs.
Mmh.
Et avec du sucre.
Bon. Avec la texture gluante.
Ah, j'avais peur de l'avoir raté.
Non, ça m'assure.
Et en fait, normalement, donc, on met du lait de vache. Là, j'ai fait la version vegan avec du lait d'avoine. Donc voilà, il y a plein de variantes possibles. Et ça, c'est un dessert qui a une connotation religieuse parce qu'on le sert notamment les jours de carême en offrande aux dieux, donc plutôt dans la confession hindoue. Donc,
alors quand vous dites carême, c'est pas le carême des chrétiens.
Les chrétiens, non, c'est les jours où on ne mange pas de viande ni de poisson par respect pour les divinités.
Très bien, oh là là, c'est vraiment extraordinaire. Pas très compliqué à faire.
Des billes de
tapioca,
de la cardamome,
noix de cajou,
du raisin sec. Lait, des raisins secs.
Pas trop de sucre, c'est ça qui est bien.
Ouais. C'est vraiment ça, il y a zéro sucre, il est vraiment super bon.
Ah super.
Ouais.
Délicieux. Et puis on nous pose des questions sur certains plats, alors malheureusement on arrive au terme de cette émission, mais à base de pois chiches et de lentilles, il y a notamment le vadet, que l'on pourrait définir, pour faire très très court, comme un falafel d'origine tamoule.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est du pois chiche, en fait, c'est ça. C'est clairement des pois chiches liés avec une base de pois chiches un peu mixée. On va venir frire, qu'on trouve très bien en street food indienne. Ouais. Donc on vient dipser un peu ce vadet dans plusieurs chutneys.
Ouais.
Et c'est vraiment top.
C'est ça. Et en fait, on le retrouve aussi à La Réunion et à Maurice, sous le nom de gâteau piment ou bonbon piment.
Et ben voilà, le bonbon piment des Réunionnais.
Ouais.
Que j'apprécie beaucoup, qui chauffe sous le palais et qui a vraiment cette texture un peu granuleuse de falafel et qui est, pour le coup, 100% végétal.
100% vegan, oui.
100% vegan, ouais. Comme quoi la cuisine tamoule est aussi très moderne. Il y a une petite question d'ailleurs sur du pois chiche ou des lentilles.
Oui, il y a Jackie qui demande comment on fait la pâte à idli, qui est un pain de lentilles vapeur servi pour le petit déjeuner. Alors, c'est peut-être compliqué à expliquer.
C'est un pain vapeur à base de lentilles.
Exactement.
Idli.
Alors c'est une fermentation. Idli.
Ouais.
C'est une fermentation en fait de pois chiches et de riz.
Ouais.
Donc c'est assez compliqué à faire. Hein. Franchement, c'est assez technique. On pourrait prendre ça comme exemple. On pourrait prendre le pain comme exemple. Par exemple, quand vous démarrez un levain, c'est assez complexe. Donc c'est le même procédé. Donc,
mais
voilà, c'est une pâte fermentée qui fermente pendant 24 heures et ensuite qui est cuit à vapeur.
Ouais. Voilà. Mais dans le livre, il y a normalement des adresses en fait où on peut trouver et quel type de riz aussi on peut utiliser. C'est pas évident, mais en cherchant un peu en ligne, je pense qu'on peut s'en sortir.
Très bien, on va se renseigner à ce sujet. Un grand merci, chers amis, Selva, Jody, Danas, à la table d'une famille tamoule, recette de mes parents aux éditions alternatives. C'est ce qu'on aime dans la cuisine parce qu'il y a votre histoire familiale, elle est très émouvante, vos rapports à votre papa, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui vous unissait beaucoup, c'était la cuisine, le langage que vous partagez avec vos parents. Et on vous recommande ce livre. Et puis Renaud Ramamurti, on vous retrouve à la table de la maison Petrosian Boulevard de la Tour Maubourg à Paris la semaine prochaine. On cultive et on cuisine la coriandre. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.